un café l'addition, l'émission qui se déguste entre 11h et 13h sur OneFM.
Et je vais pas vous le cacher, je suis très bien entourée aujourd'hui, d'abord par le docteur Olivier Menzel. Bonjour Olivier.
Mais bonjour.
Tu es le président et le fondateur de la fondation Black Swan, une fondation, la fondation suisse de recherche sur les maladies rares, maladies orphelines. On en parlera dans un instant évidemment. À tes côtés, David Pihan, bonjour.
Bonjour.
Président, j'ai deux présidents pour moi, c'est la classe quand même. Président de la Jeune Chambre Internationale de Genève. On va dire d'ici quelques instants aussi en quelques mots de quoi il s'agit. Et surtout, on va d'ores et déjà le dire, parce que c'est le plus important, le 30 novembre, salle Pitof à Genève, la soirée Ice and Fire en faveur de la fondation Black Swan.
Tout à fait.
Ça, c'était quand même le principal à dire.
Oh, c'est un des gros événements.
Vous pouvez y aller maintenant. Merci messieurs, c'était sympa de venir. On attend toujours Olivier Berthelot qui, nous l'espérons, va finir par nous trouver. Mais c'est vrai qu'avec les perturbations sur les routes romandes aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Si vous croisez un conférencier spécialiste d'Istanbul, vous nous l'envoyez 4 rue des Acacias. Parlons un peu de cette fondation Black Swan en quelques mots, Olivier, si tu devais la présenter pour celles et ceux qui ne la connaissent pas.
Ben, tout simplement, c'est une fondation qui soutient la recherche sur les maladies rares et orphelines, surtout, comme tu viens très bien de le dire, et qui a pour but aussi de quand même faire comprendre la problématique de ces maladies associées au manque total de thérapie, de médicaments et de recherche.
Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on parle de maladies rares, de maladies orphelines, mais ça touche quand même des centaines de milliers de personnes en Suisse.
Alors, effectivement, la définition numérique d'une maladie rare, c'est moins d'une personne sur 2000, ce qui veut dire que si on extrapole ces chiffres, c'est une personne sur 15 a une maladie rare. Et plus ou moins un demi-million de personnes souffrent d'une maladie rare en Suisse. Donc, le mot rare, effectivement, oui, est là, mais les patients sont nombreux.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, évidemment, pour celui qui en souffre, aucune maladie n'est rare. Et pour bien comprendre la problématique des maladies orphelines, c'est que justement, puisque ça ne touche pas, entre guillemets, assez de gens, les grands labos ne s'y intéressent pas et injectent peu d'argent pour la recherche. C'est quand même ça, c'est la réalité.
Ben, c'est très bien résumé. Exactement, c'est ça. Malheureusement, on ne peut pas créer des blockbusters, donc des médicaments pour des larges populations, donc c'est pas rentable pour les grandes pharmaceutiques.
Comment les grands groupes pharma ne font pas les choses inspirées avant tout par le bien de l'humanité, mais... ils pensent au profit. Non, je ne peux pas le croire, Olivier, je ne peux
non,
pas le croire.
Quand même pas, mais c'est en train de changer. C'est en train de changer. La pharmaceutique en général s'intéresse aux maladies rares. Effectivement, c'est parce qu'on tende aussi à une médecine personnalisée, donc effectivement les maladies rares, ça se rapproche de ce modèle-là. Ça en train de changer. C'est bien, c'est très bien pour la cause. Et puis effectivement, de plus en plus de médicaments arrivent sur le marché, même s'ils sont très 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 rares, si j'ose utiliser le terme à nous.
Donc il y a quand même un signal positif.
Il y a un signal positif, il y a une connaissance du large public, ce qui permet aussi à des fondations comme nous de, justement de pouvoir financer de la recherche. Mais voilà, on est au début et il faut travailler encore beaucoup.
Eh ben, d'ici 13h, on en dira plus, on tâchera évidemment d'informer nos auditeurs, on vous parlera aussi de cette belle soirée Ice and Fire. Notez bien, c'est le samedi 30, salle Pitof à Genève. On retrouve mes deux invités dans un instant. Pour l'heure, c'est Martin Solveig avec Hey Now. 11h40, David, il est à fond. Moi, je dis qu'il va finir ce lunch sur la table, David Pihan. Ça va donner une très belle image de la Jeune Chambre Internationale de Genève. Dynamique, telle qu'elle est. C'est très bien. À tout de suite.
À café l'addition, Judith en robe des champs jusqu'à 13h sur OneFM.
Et j'ai de la chance, trois messieurs rien que pour moi aujourd'hui, puisque notre troisième invité a fini par nous trouver, on en est ravis. Il s'agit d'Olivier Berthelot. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci d'être venu nous rejoindre pour ce lunch. Avec toi dans quelques instants, on va parler
plaisir.
De la Turquie et plus précisément d'Istanbul. Avant cela, on va parler un petit peu de nourriture, messieurs, puisque c'est une émission dans laquelle on mange. C'est une émission aussi qui est faite pour les gourmands. Et tiens, je vais commencer par toi, Olivier, qu'on n'a pas encore entendu, Olivier Berthelot. On mange pas mal en Turquie, hein. Ça fait partie des pays. Moi, j'ai eu la chance
Turquie.
De faire quelques voyages, c'est très très bien ça au niveau culinaire.
On mange très très bien en Turquie.
Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un peu l'origine méditerranéenne, j'imagine.
Il y a du mélange, oui oui, oriental et méditerranéen, bien sûr, bien sûr. Il y a des recettes communes avec la Grèce et puis d'autres particulières selon la région.
Les mésés.
Les mésés, bien sûr, bien sûr.
Et puis en boisson, la petite anisette turque qui déchire.
Ça déchire pas tant que le pastis, mais il n'y aura que, ça vaut...
Ça dépend combien on en boit, après c'est toujours la même.
Après c'est une question de goût, vous savez, entre ceux qui boivent du 51, du ouzo, du raqueuse. Moi en fait je préfère le raqueuse, vous allez me dire, ah ouais, il y a un parti pris. Non, non,
le raqueuse, c'est
à l'usage, je préfère le raqueuse.
C'est donc l'anisé local,
oui,
turc,
c'est ça.
Qui se mélange aussi avec de l'eau.
Absolument.
Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que les Turcs font du bon vin. aussi.
On ne le sait pas toujours, mais il y a du très très bon vin. Je ne saurais que recommander un Cavec Lideré ou un Doluja, par exemple.
On parlera bien sûr d'Istanbul sous d'autres facettes que la facette culinaire. Un petit mot, Olivier Menzel, avec ce très joli accent. Il doit y avoir quand même quelques origines du côté, quoi, d'un peu d'Italie, du Tessin.
Ah, totalement, du Tessin, Lugano, oui.
Les spécialités, tiens, du Tessin, spécialités culinaires à ne pas manquer quand on vient faire un petit tour dans ton
alors, beau canton. C'est très méditerranéen comme type de cuisine, effectivement, mais la spécialité, c'est le brasato, la polenta. C'est, d'ailleurs, ce serait parfait pour aujourd'hui, oui, vu le temps gris. Ouais.
c'est un plat qui réchauffe, polenta, avec
avec du brasato, en fait, c'est de la viande qui a été longtemps cuite, mijotée, et puis avec un bon merlot, c'est juste parfait.
Ah, le merlot tessinois, des meilleurs merlots du monde. David Pillon, alors là, c'est moins, on ne pourra pas avoir une idée des origines, ça va être moins facile. Qu'est-ce qu'on cuisinait à la maison? C'était quoi le plat de tradition?
Alors, moi, je suis un ch'ti suisse.
T'es un ch'ti suisse?
Ben oui.
Non.
Donc, un né à Lille, et puis depuis 14 ans
bon,
à Genève.
Bon, ça arrive, hein, oui. Même au meilleur.
Donc, à la maison, on mange beaucoup indien, parce que ma femme est indienne, okay, même si elle est arrivée à l'âge de 6 ans à Genève. Mais on
ça,
mange
c'est,
beaucoup.
C'est pas mal, donc je m'invite d'ores et déjà, bien. Je te le dis, parce que j'adore moi la cuisine aussi. Indienne. Toi aussi, bon, ben, tu vas avoir du monde à la maison sous peu. Et tu as une spécialité ch'ti?
La tarte au maroilles.
Ah, le truc bien light, ou après, t'as bonne haleine. Bon, ben, on s'invitera, tiens, pour les deux fois. J'ai jamais goûté de tarte au maroilles. On trouve mes invités, une émission riche, on vous l'a dit, plusieurs sujets, trois invités autour de la table qu'on retrouve dans un instant.
Un café l'addition sur One FM. Une émission 100% bon goût.
Et journée spéciale, puisque toute l'antenne de One FM se délocalise au Capo Caccia, 4 rue des Acacias. C'était le cas de l'équipe du matin. Ce sera le cas également de la Happy Hour entre 16h et 20h avec Hervé et Vanessa. Et moi, j'ai le plaisir, bien sûr, d'être toujours au Capo Caccia en compagnie de David Pillon et de Olivier Menzel. Olivier, je le rappelle, tu es le président et le fondateur de la fondation Black Swan, qui œuvre pour la recherche sur les maladies rares et orphelines. On l'a dit, maladie rare ne veut pas dire qu'il y a peu de gens touchés. Ça, c'est quand même important de le rappeler.
Exactement. Pour une maladie donnée, oui, il y a très peu de gens touchés, mais il y a plus de 7000 maladies qui ont été décrites dans la littérature scientifique. Donc si on extrapole à nouveau ces chiffres, on arrive à 500 000 de personnes en Suisse.
Est-ce que la difficulté pour l'information, pour la recherche de fonds, c'est pas aussi que finalement, quand ça ne nous touche pas directement, c'est toujours difficile de sensibiliser les gens?
Ah, c'est totalement ça. On a deux problèmes. Un, le manque de connaissances par rapport aux maladies rares orphelines. Et deux, c'est clair que financer la recherche et faire soutenir la recherche, c'est extrêmement compliqué parce qu'effectivement, on ne voit pas tout de suite les résultats.
Est-ce que ce sont des maladies qui sont forcément très différentes des unes des autres ou certaines, justement, il y a des pistes pour la recherche qui sont communes et qui fait que si ça avance pour l'une, ça peut avancer pour l'autre, hein?
Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a des groupes de maladies. On peut parler des maladies métaboliques, des maladies neurodégénératives qu'on peut suivre un petit peu la même piste. Entre elles, sont assez différents, mais ce qui est très important, et c'est le message que nous, on essaie aussi de véhiculer, que l'étude de ces maladies très rares et très spécifiques est très souvent démontré d'aide pour des maladies plus communes qui touchent n'importe qui.
Est-ce que c'est là aussi où du coup vous arrivez peut-être à vous faire entendre plus facilement des grands labos?
Exactement, c'est la voie qu'on utilise et d'ailleurs même les grands labos ont démontré que des médicaments développés dans le domaine des maladies orphelines ont trouvé un public, si j'ose dire, dans le domaine des maladies communes.
Moi c'est vrai que si je pense maladies rares, maladies orphelines, j'ai souvent tendance à penser à des maladies de l'enfance. Est-ce que ce sont majoritairement des maladies de l'enfance ou c'est une idée reçue qu'on peut avoir,
hein? Non, non, totalement. Parce que 80% de ces maladies sont d'origine génétique, donc on est avec. Hein. Donc effectivement, à plus de 75%, ces maladies touchent les enfants en bas âge.
Les gènes, de toute façon, on travaille de plus en plus dessus. Donc là encore, un espoir quand même que les recherches, même les recherches justement des grands groupes pharma, puissent un jour déboucher sur des vraies avancées pour ces maladies-là.
Totalement, parce qu'effectivement, la génétique, elle prend de plus en plus d'ampleur et au niveau diagnostique, mais aussi au niveau thérapeutique. Et donc, pour les maladies rares orphelines, c'est un très bon signal.
Quand on parle de recherche en termes médicaux, ce sont des sommes souvent qui font tourner les têtes, hein.
C'est le cas. C'est effectivement, ça coûte assez cher, mais aussi avec très peu de moyens, on peut faire juste des petites études de fisibilité ou de proof of concept, comme on dit en anglais. Donc, démontrer que l'étude elle est intéressante pour après aller toucher des institutions qui soutiennent ce type de recherche.
www.blackswanfoundation.ch. Enfin, vous avez les moteurs de recherche aussi qui font ça très bien. Si jamais vous n'avez pas tout retenu, vous aurez plus d'infos. Et on reparle dans un instant aussi avec David de la soirée du 30 novembre en faveur de la Fondation Black Swan. C'est évidemment très important.
Un café l'addition entre 11h et 13h, c'est Judith qui invite. One FM.
Ah, c'est peut-être moi qui invite, mais c'est le Capocaccia à rue des Acacias qui nous reçoit autour de la table. Le docteur Olivier Menzel, avec qui nous parlons de la fondation Black Swan. Avec nous également David Pihan, président de la Jeune Chambre Internationale de Genève pour la soirée du 30 novembre, Ice and Fire. Et Olivier Berthelot, réalisateur et conférencier pour un film consacré à Istanbul qui est présenté jusqu'à dimanche à la salle centrale de la Madeleine dans le cadre de Connaissance du Monde. Connaissance du Monde, on rappelle en quelques mots, un film sur grand écran et un conférencier en direct.
L'auteur sur scène, le réalisateur.
Et qui commente et qui est la voix off du film, mais en direct sur scène. C'est
oui,
ça qui est important.
Oui, alors ça, c'est le truc assez particulier, mais on remet aussi des pianos en route pour illustrer les films muets. Hein, ça se fait aussi en direct maintenant. Alors nous, c'est un vieux système qui a perduré comme ça, parce qu'au départ, c'était des voyageurs qui racontaient leurs expéditions avec des diapos en noir et blanc au tout départ. Puis ça a évolué techniquement, mais le direct reste la pièce essentielle.
Et ce qui est génial, c'est que le public est toujours en rendez-vous 50 ans plus tard. Donc ça prouve qu'il y a toujours cette curiosité.
Mais oui, la présence humaine.
Et puis, pour l'échange, parce que l'intérêt, bien sûr, c'est que le film est en deux parties. Pendant la pause, on peut venir te voir pour poser un peu des questions. Pour celles et ceux aussi qui ont envie de préparer un voyage à Istanbul, eh ben, c'est l'occasion d'aller déjà vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Istanbul et toi, une histoire d'amour qui dure depuis plus de 30 ans.
Oui, 35.
Qu'est-ce qui t'a fasciné dans cette ville au point d'avoir eu envie d'y retourner si souvent et de lui consacrer deux films, hein, je crois que c'est déjà le deuxième, hein.
Ce qui m'a fasciné, principalement quand on arrive à Istanbul, on ne peut pas rester indifférent à la beauté de la ville. Le site étant lui-même majestueux, d'une part le site géographique, et puis d'autre part tout ce que les hommes ont pu y construire depuis 2000 ans. Enfin voilà,
c'est une ville qui a une richesse historique aussi, incroyable.
Des monuments grandioses, ouais. C'est grand quoi, c'est énorme quand on rentre dans ces grandes mosquées, quand on voit Sainte-Sophie, enfin voilà. Il y a quelque chose de très marquant. Et puis l'autre chose, assez essentielle aussi à mes yeux, qui fait que je suis tant allé en Turquie et à Istanbul, c'est la chaleur humaine qu'on trouve là-bas, c'est le sens de l'accueil des Turcs, c'est leur disponibilité, leur manière d'être.
J'ai eu la chance de faire quelques voyages en Turquie qui m'ont laissé vraiment des souvenirs impérissables. Je ne sais pas si nos deux invités, Olivier et David, vous avez déjà eu l'occasion d'aller en Turquie. Ni l'un ni l'autre, visiblement.
Non,
David non plus.
On attend l'invitation.
Alors prenez renseignements auprès d'Olivier, parce que c'est vrai que c'est un peuple excessivement chaleureux.
Très,
avec,
très, très accueillant.
Une grande,
tout le temps.
Avec une grande histoire.
Et ça n'a pas changé. Voilà,
La particularité d'Istanbul aussi, c'est ce côté mi-oriental, mi-occidental, très bien symbolisé d'ailleurs par les deux rives de chaque côté du Bosphore.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Eh ben tu vois, alors vas-y.
Oui, et ben c'est la symbolique que tout le monde imagine, ouais. Que la rive européenne est occidentalisée et la rive asiatique est restée un peu traditionnelle et plus musulmane. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais alors c'est un puzzle Istanbul de quartiers très très divers. Or, justement, je vais à l'encontre de ça parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, Istanbul augmente de population à cause d'une exode rurale qui est encore assez importante. Ça se ralentit, mais c'est encore important. Or, tous ces gens qui arrivent des campagnes viennent beaucoup plus avec leur tradition et sont beaucoup plus porteurs aussi des valeurs de l'islam d'ailleurs. Où est-ce qu'ils vont s'installer à Istanbul en général? Auprès des grandes mosquées. Elles sont où ces grandes mosquées?
Sur la rive occidentale.
Sur la rive occidentale et dans les quartiers touristiques.
Pas
et
mal.
Les touristes qui débarquent et qui ne font pas plus loin que 200 mètres au-delà de la mosquée bleue ou de la mosquée de Bayezid par exemple, il ne veut voir que des femmes avec des foulards, des choses comme ça, enfin pas que, mais quand même beaucoup, et il va penser que tout Istanbul est comme ça, et c'est loin d'être le cas.
C'est marrant d'ailleurs, à un moment tu montes sur deux images, les femmes voilées, les femmes qui ne le sont pas,
voilà,
et
voilà.
Il y a vraiment ces deux visages-là.
Alors
aussi,
des moments, on traverse une avenue, on change de quartier, on traverse la Corne d'Or et on est dans une ambiance complètement différente. On se croirait à Genève dans certaines avenues maintenant aujourd'hui, puisque le tram passe, je vois ici le tram qui passe devant la fenêtre depuis notre restaurant.
Absolument, le Capocaccia.
Et à Istanbul c'est pareil, on a des images qui peuvent être assez semblables avec la ligne de tram qui passe sur Divaniolu.
Et puis il y a la mondialisation, je ne sais pas si c'est un bien, mais qui fait qu'on retrouve les mêmes enseignes à Istanbul qu'on les trouve partout ailleurs.
C'est ce que je dis un moment dans le film, oui, on retrouve aussi dans les nouveaux centres commerciaux qui se construisent, oui, on retrouve aussi les mêmes enseignes.
Si vous avez envie d'en savoir plus, le film est présenté jusqu'à dimanche, 18h45 ce soir et demain, 17h samedi et dimanche. Olivier et David sont de retour dans quelques instants.
Les invités sur le grill, bleu, saignant ou à point. Un café l'addition sur One FM.
Moi je suis sympa, je demande toujours à mes invités comment ils veulent être grillés. Tiens, alors David Pihan, bleu, saignant ou à point?
Saignant,
à l'œil, on va y aller. Président de la Jeune Chambre Internationale de Genève qui organise une soirée en faveur de la Fondation Black Swan dont on parlait tout à l'heure avec le docteur Olivier Menzel. Ce sera le 30 novembre, salle Pitof à Genève, Ice and Fire. Juste un petit mot sur la Jeune Chambre Internationale de Genève pour celles et ceux qui ne connaissent pas. En quelques mots, c'est...
En quelques mots, on est des bénévoles, on est des femmes, des hommes, 18-40 ans maximum. Après, ça se termine.
Oh là là, le sectarisme, t'as 40 ans, t'es vieux quoi.
Non, non, on laisse la place aux jeunes en fait, c'est ça le concept. Et on est complètement neutre d'un point de vue politique ou religieux.
D'accord, très bien. Et vous développez des projets, vous développez des entreprises, comment ça, qu'est-ce que vous proposez finalement?
Alors on mène effectivement des actions, on a un idéal, en fait, c'est de contribuer à la résolution de problèmes économiques ou des problèmes d'intérêt public pour la communauté. C'est aussi pour ça qu'on soutient la cause de Black Swan aujourd'hui. On veut aussi éveiller le sens de la responsabilité communautaire, c'est-à-dire des jeunes aujourd'hui qui sont dans l'association, ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent agir. Notre philosophie, c'est apprendre en faisant, donc c'est être sur le terrain et de faire bouger les choses.
Eh bien ça c'est très bien. Et alors parlons justement de cette soirée Ice and Fire que vous organisez en faveur de la fondation Black Swan. Comment est né le projet de cette soirée?
Une rencontre.
Ouais, comme souvent.
Exactement.
Autour d'une table, avec un verre,
exactement.
Comme souvent. Et voilà.
C'est exactement ça. Une rencontre, une personnalité, Olivier qui est à côté de moi. Et puis aussi effectivement une grande cause. Les maladies rares et orphelines touchent beaucoup, beaucoup de monde. Et puis nous on est complètement sensibles à ça, on veut faire bouger les choses. Et donc c'est comme ça que ça a commencé.
J'ai regardé le programme, franchement ça va être hyper sympa. Ice and Fire. Alors, quelques mots du programme.
Alors, c'est une soirée spectacle, hein, il faut aussi être clair là-dessus. Il y aura un défilé de mode avec de très, très belles femmes qui vont défiler avec de très, très beaux habits. Tout ça sera effectivement...
Mais pas trop d'habits quand même.
Si, quand même, mais de très beaux habits.
Elles sont orphelines?
Non, elles ne sont pas toutes orphelines.
Tu cherchais à adopter les filles Berthelot.
Ouais, c'est ça.
Tout ça en musique, tout ça sous une chorégraphie, avec aussi des spectacles, enfin des acrobates aériens. Enfin, ce sera juste magique.
Sculpteur sur glace. J'ai vu aussi un magicien qui va faire du close-up.
Il y aura des très très belles choses effectivement de proximité, tout ouais. Se passera pas sur scène. Il y aura effectivement sculpture sur glace, on va sculpter un cygne. Et puis aussi un invité de prestige, Franck Bouroulec. Je vais laisser peut-être quelques secondes à Olivier pour en parler.
Exactement, Franck Bouroulec qui est quand même ambassadeur de la fondation Black Swan, qui met son art à disposition de la fondation parce qu'il va faire une performance le soir.
C'est qui Franck Bouroulec pour ceux qui ne le connaissent pas,
bah, il a fait l'ouverture du Jamel Debbouze, du One Man Show pendant 450 représentations avec un tableau au départ de son spectacle. C'est un peintre-performeur, avec qui on va aussi faire toute une série de t-shirts, des t-shirts for therapy. Donc on vendra des t-shirts design, fashion, qui serviront à soutenir la cause.
David, hein.
Donc c'est effectivement, on va introduire la vente aux enchères avec Franck Bouroulec, qui est ce peintre qui retourne en fait sa toile à la fin et on découvre ce qui a été peint, ça c'est génial. On a aussi des superbes lots à vendre.
Il y aura une grande tombola.
Exactement, on pourra acheter le droit d'allumer le jet d'eau, on pourra acheter une
c'est
visite.
C'est bon ça.
Ouais, une visite avec un petit personnage qui est juste très très grand qui s'appelle Darius Rochebain, donc pour une visite privée de la RTS.
Sympa.
On a également quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Stéphane Lambiel.
Oui, vaguement.
Et qui vous proposera de faire une heure de patinage en privé.
Ça c'est génial.
Ah, c'est génial. Donc on va vendre en fait que des choses qui normalement on ne peut pas s'offrir.
115 francs le billet d'entrée en préloc, 130 francs sur place. Oui, ça comprend le repas, ça comprend les spectacles. Et les boissons, c'est en faveur de la bonne cause.
Exactement.
Pour une fois, vous pourrez vous lâcher. Prenez une petite coupe de plus, ça ira pour la fondation Black Swan. On ne peut pas dire mieux. www.ice-fire.org.
One FM, un café d'addition, on va se poiler.
Et il y a un sacré timing puisque Olivier Berthelot finit à peine son assiette. Il te restera un peu de sauce à saucer justement avec
c'est
le
bon.
Pain. C'est bon, hein. Des petites pâtes, c'était des petites pâtes à quoi, tiens
macaroni aux aubergines.
Ah ouais, mozzarella, de bouffolone et tomate. Pas mal du tout. Toujours en direct évidemment du Capo Calcia avec mes invités. Olivier Berthelot jusqu'à dimanche à la salle centrale de la Madeleine dans le cadre de Connaissance du Monde. C'est Istanbul, Fais et Reflets. Je le disais, t'aurais pu le sous-titrer encore entre Orient et Occident ou entre tradition et modernité, parce que c'est ça aussi, hein, vraiment.
Ou éventuellement
cette ville,
hein. Istanbul au fil de l'eau.
Oui, alors l'eau, alors c'est intéressant, c'est vraiment l'élément central de la vie des, comment on dit, des Stambouliotes. Hein.
Les Stambouliotes, oui, oui. Et oui, Istanbul est né sur l'eau en fait, hein, à cheval sur le détroit du Bosphore et puis sur les rives de la Marmara d'un côté, les rives de la mer Noire de l'autre. Oui, c'était une ville très maritime, ce qui est rare en Turquie en fait.
Oui, c'est vrai. Il y a les villes un peu plus touristiques, je pense entre autres à Antalya au bord de la mer.
Oui,
mais c'est vrai que sinon
des petits
c'est
ports, mais des,
cette incursion de la mer vraiment ouais. Dans les terres, c'est ouais. Assez assez impressionnant. Avec d'ailleurs une grosse nouveauté pour la ville d'Istanbul, oui. Le Marmaray.
Absolument, ça a été inauguré il n'y a pas longtemps, et un peu plus de deux semaines, le 29 octobre. Ils ont attendu l'anniversaire de la République turque pour fêter ça, puisqu'on fêtait le 29 octobre 2013 les 90 ans de la République laïque de Turquie. Je répète laïque parce qu'en général, on ignore.
Atatürk. Alors justement, ben, forcément, on ne peut pas parler de la Turquie et d'Istanbul sans évoquer... Alors, en théorie laïque, je le rappelle, un pays musulman en théorie laïque. Et je dis quand même en théorie parce que depuis quelques années, les choses sont quand même en train de bouger.
La constitution du pays reste laïque, les lois restent laïques. Après, dans la pratique, par exemple, il y a une loi qui interdit l'entrée des foulards aux universités et dans les lycées, qui est bafouée depuis 2 ans à alors chaque rentrée universitaire, et on laisse faire maintenant, alors qu'il y a encore 4-5 ans, les recteurs d'académie ou les présidents d'université ne laissaient pas rentrer les femmes avec un foulard. Pour l'instant, il y a encore dans l'enceinte du Parlement, où la femme d'un ministre a voulu rentrer avec son foulard islamique sur la tête, on appelle ça un turban là-bas, et a été remise dehors in petto par les députés.
Est-ce qu'il y a un affrontement fort idéologiquement aujourd'hui en Turquie, justement entre les laïcs et les islamistes,
hein? Oui, parce que les manifestations du printemps, c'est bien ça que ça reflète. C'est ça.
Tu en parles en présentation de ton film.
Oui, parce
film,
que c'est très important ce qui s'est passé cette année.
Ces événements.
Et les protestations qui ont duré 54 jours, enfin, c'est fou, c'est énorme.
Et dont on a finalement assez peu entendu parler ici.
Oui,
hein?
Alors que c'est un mouvement sans précédent en Turquie, avec une énorme ampleur. C'était pour dire ras-le-bol du fait que la politique gouvernementale vise à appliquer de plus en plus d'islamisme et donc ça touche la vie privée des gens. À partir du moment où on joue vraiment sur la vie privée, ça ne marche plus. Et donc là, il y a un ras-le-bol qui s'est exprimé. C'était incroyable ce qui s'est passé à Istanbul au mois de mai, juin.
Et tu parlais des 90 ans de la République. Il faut aussi expliquer encore l'attachement, encore aujourd'hui, des Turcs au père de cette République, à Atatürk. Et c'est peut-être pour ça que ce sont encore des choses que les gens ne veulent pas voir bouger, parce qu'il y a encore ces chemins très forts.
Oui, mais, et même dans certains milieux musulmans, parce que Atatürk avait scindé le sultanat et le califat. Hein. Le sultan, c'était le chef politique, et le calife, le chef religieux, c'était une seule et même personne. Il avait scindé les choses en deux et ensuite aboli le sultanat et aboli le califat. Donc les religieux pourraient lui en vouloir. Et ceci dit, il a fait tellement de réformes qui ont vraiment fait évoluer le pays à l'époque que même beaucoup de musulmans en Turquie aujourd'hui continuent d'avoir Atatürk en portrait chez eux, malgré tout.
Ce qui est très intéressant, puisque c'est une ville que tu connais et que tu visites depuis 35 ans, c'est que tu as aussi pu la voir évoluer et changer.
Mais c'est ça, c'est pour ça que je suis arrivé à faire ce film, parce que l'évolution m'a fasciné. Quand on va à Istanbul aujourd'hui, bien sûr on va voir Sainte-Sophie, les mosquées et tout ça, mais quand on change de quartier, qu'on va voir, c'est je ne sais plus combien il y a de tours aujourd'hui. La plus haute tour fait 260 mètres. 260 mètres. Voilà, il y a des quartiers de tours énormes, c'est du business, c'est des quartiers d'affaires, ça s'étend, et aujourd'hui on est rendu à 100 km urbanisés complètement.
Et bien, si vous avez envie de voyager et que vous n'avez pas des vacances tout de suite, allez à la salle centrale de la Madeleine, on voyage comme ça avec l'esprit déjà un petit peu aujourd'hui avec toi à la radio. 18h45 ce soir et demain, 17h samedi et dimanche. On retrouve mes invités dans un instant, le temps qu'ils terminent leur pasta. Si.
La main dans le pot de confiture.
Et c'est un peu comme à l'école en fait. Quand j'ai plusieurs invités, j'aime bien parce qu'ils se montrent leurs petits billets, puis ils regardent, alors toi t'es tombé sur quoi et toi t'es tombé sur quoi. Et il y a peut-être des jalousies. Oh tiens, j'aurais préféré le tien, j'aurais préféré le mien. On va voir si Olivier Menzel a été inspiré par son petit papier tiré dans le pot de confiture. Olivier, on t'écoute.
La question c'est, si j'avais pu être un artiste, ce serait, c'est excellent, parce que étant scientifique, moi j'aurais rêvé d'être un artiste, en tout cas d'avoir quelques qualités. Non, j'adore le monde de la musique, et puis juste savoir jouer d'un instrument, pour moi c'est déjà être artiste.
Ça ressort beaucoup, hein. Ouais. Beaucoup de mes invités aimeraient bien être virtuose, un instrument, ça ressort beaucoup. Allez, un artiste.
Un artiste tout simplement, Freddie Mercury de Queen.
Oh bah tant qu'à faire, mais t'as raison.
Autant, sky's the limit.
Exactement, autant être le plus grand, ou un des plus grands, t'as bien raison, Freddie Mercury, ça me va bien. David.
Joker.
C'est quoi la question?
Quel a été mon plus gros mensonge?
Alors
quand j'ai dit à mes parents que c'était pas moi, mais c'était moi, j'avais fait une grosse bêtise.
Ouais.
Une grosse bêtise.
Mais un truc que tu peux avouer maintenant ou toujours pas? Parce que tes parents sont toujours pas au courant.
Il y a prescription maintenant, hein, je crois.
Alors vas-y, t'avais fait quoi comme bêtise?
J'avais piqué du chocolat.
Oh, piqué du chocolat? C'est ça le plus gros mensonge.
Dans un magasin.
Ah, c'est pas bien. C'est pas bien de voler, même du chocolat.
Déjà un bon Suisse à l'époque.
On t'a trompé, absolument. En plus, en Suisse, non mais vraiment la honte.
Non,
c'est bien. C'est bien.
C'était déjà en Suisse.
Non, c'est du chocolat belge, j'étais encore dans la région.
Bon, si t'as volé du chocolat belge, c'est moins grave que de voler du chocolat suisse. Non, c'est bien, t'as été honnête, bravo. C'était la minute confession. Et Olivier Berthelot pour finir.
Ah, bah la tentation à laquelle je ne résiste pas, quelle est la question, voilà.
Chocolat de Daniel.
Le chocolat suisse, facile. Non, j'allais dire un verre de vin, si je sais que c'est du bon vin. Ouais.
Comme celui qu'on a bu là aujourd'hui.
Et puis l'autre tentation à laquelle je ne résiste pas, c'est l'appel de la route et du voyage.
Évidemment, c'est peut-être la tentation la plus forte à laquelle tu ne résistes pas.
non. Voilà, ça, j'ai pas résisté quand j'étais jeune.
C'est ça, clair. C'est les grands voyageurs. Et tant mieux, ça donne un très beau film sur Istanbul. Donc tu vois, les choses sont bien faites. Michael Moore, Can't Hold Us. Et dans un instant, mes invités pour la conclusion de cette émission. À tout de suite.
Un café l'addition. 11h-13h, One FM se met à table.
C'est toujours un plaisir quand mes invités me disent mais c'est déjà la fin. J'espère que vous aussi qui nous écoutez vous dites déjà et pas enfin. Déjà la fin, oui. Olivier, docteur Olivier Menzel, soyons sérieux, président et fondateur de la fondation Black Swan, une fondation, la fondation suisse pour la recherche sur les maladies orphelines, les maladies rares. Un truc très important à dire, si on veut donner de l'argent, tout part pour la recherche.
Exactement, c'est un peu notre credo. Je pense qu'il y a énormément d'associations qui ont des frais d'administration extrêmement élevés. Nous, ce qu'on fait, si les gens sont convaincus, les gens sont touchés par notre cause, on vous assure que vos 100 francs, 50 francs, 10 francs vont à la recherche dans leur intégralité.
Et comme toujours pour les bonnes causes, la plus petite somme peut faire la différence. Même si on a des petits moyens, c'est une façon d'aider avec les moyens qu'on a.
Exactement, et au pire, on peut toujours en parler autour de soi. C'est ça aussi, il faut faire comprendre la problématique des maladies rares.
www.blackswanfoundation.ch ou sur un moteur de recherche si vous n'avez plus comment fondation en anglais, c'est écrit. Merci infiniment, docteur Menzel. Merci. David Pian, jeune chambre internationale de Genève, organisatrice de cette soirée Ice and Fire, le 30 novembre prochain. Ce sera un samedi à la salle Pitof avec un programme de fou.
Tu as tout dit. C'est qu'on peut, vous pouvez agir ici et maintenant, enfin c'est la semaine prochaine, pour justement soutenir la fondation Black Swan avec cette grande cause. Je juste rappeler quelques éléments du programme. Il y aura des cracheurs de feu aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Il y aura des lots juste géniaux. On a un joueur de foot là qui nous dédicace un maillot et il joue au Real Madrid. Et voilà, on terminera la soirée avec DJ Phil Lancaster, donc ceux qui aiment danser aussi. Il y aura vraiment un spectacle de A à Z de 19h à 3h du matin, salle Pitof le 30 novembre.
52 rue de Carouge à Genève, www.ice-fire.org pour tous les renseignements et pour acheter vos billets. Merci beaucoup David.
Merci Judith.
Et puis on n'oublie pas Istanbul, Olivier Berthelot, jusqu'à dimanche.
Jusqu'à dimanche.
La passion de cette ville sublime de Turquie que tu partages.
Et ben voilà, venez le voir et l'écouter. C'est vrai que je partage en direct sur scène.
Jusqu'à dimanche à la salle centrale de la Madeleine, dans le cadre des films conférences connaissances du monde. On a tout dit, ou presque. Le reste, c'est à découvrir sur grand écran.
Görüşürüz.
Comment tu dis?
À la revoyure.
À la revoyure. Vas-y.
Görüşürüz.
Görüşürüz. Görüşürüz, messieurs.
Görüşürüz,
messieurs.
Görüşürüz. Ciao.
Merci. 18h45 ce soir et demain 17h samedi et dimanche pour le film d'Olivier Berthelot consacré à Istanbul.